Et le journal est présenté ce soir par Sophie Delpont. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Une baisse de 90% du nombre de migrants arrivés en Grèce au mois d'avril. La carte de l'exil remodelée depuis l'accord passé entre la Turquie et l'Union européenne. Quelles sont les conséquences sur les chemins de l'exil ? Analyse avec Christine Moncla dans un instant. En Afrique du Sud, les mineurs atteints de silicose vont pouvoir mener une action de groupe en justice face aux exploitants. À Johannesburg, nous rejoindrons notre correspondante Lisa Fabian. Au Brésil, le gouvernement de Michel Temer présenté ce soir. La nouvelle équipe libérale promet des mesures économiques d'austérité. Analyse à suivre avec Nadine Epstein. Dans ce journal aussi, une enquête sur le calvaire des retraités de la CIPAV, la caisse complémentaire des professions libérales. Un cauchemar pour beaucoup, un dossier signé Anne Lerchouin. Et puis nous irons à Cannes, deuxième jour du festival avec Antoine Guillot. Et à 18h20, au sommaire du Grain à Moudre avec vous, Hervé Gardette.
Peut-on mettre la spiritualité à toutes les sauces? Nous allons poser la question à Philippe Courcuf et Jean-Pierre Denis.
À tout à l'heure. L'accord entre Bruxelles et Ankara ne tient plus qu'à un fil. Les négociations sont dans l'impasse à propos des migrants. La Turquie réclame toujours l'exemption de visa pour ses ressortissants en l'échange du contrôle de ses frontières et du renvoi vers son territoire des migrants arrivés en Grèce après le 20 mars dernier. Sur le terrain, les conséquences de cet accord sont spectaculaires. En avril, le nombre d'exilés arrivés en Grèce a diminué de 90% depuis l'entrée en vigueur de ce pacte, Christine Moncla.
C'est tristement mécanique, alors que les arrivées à la frontière grecque chutent, l'Italie est redevenue la principale porte d'entrée des migrants en Europe. Presque moins 90% en effet en Grèce, avec 3000 personnes recensées en avril, plus de 9000 sur les côtes sud italiennes, 31000 depuis le début de l'année. Ce sont là les premiers effets de l'accord passé avec la Turquie sur le refoulement des exilés sans titre de réfugiés. C'est aussi la conséquence de la fermeture de la route des Balkans et de la surveillance accrue des frontières extérieures et à l'intérieur de l'espace Schengen pour 4 pays au moins, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Suède, qui viennent d'ailleurs d'être autorisés par Bruxelles à prolonger le contrôle de leurs frontières. Une politique qui montre toutefois ses limites, d'abord humanitaires. Rappelons simplement le terrible naufrage du 18 avril qui a fait 800 morts en Méditerranée. Il y a également les dizaines de milliers d'exilés toujours bloqués en Grèce et derrière les barbelés de la frontière serbo-hongroise. L'Italie n'a plus assez de places d'accueil ni de rétention et au final, il n'y a pas moins de migrants qui veulent entrer en Europe. C'est ce que note un rapport parlementaire publié aujourd'hui en Grande-Bretagne qui juge sévèrement l'opération militaire européenne baptisée Sophia et lancée il y a un an au large de la Libye. Les auteurs du rapport notent que très peu de trafiquants ont été arrêtés, à peine 50, et qu'en détruisant leur navire, l'opération Sophia a surtout poussé les passeurs à faire embarquer les migrants sur des bateaux gonflables en encore plus dangereux pour eux.
Christine Moncla. Depuis Londres, la patronne du FMI met en garde la Grande-Bretagne contre la tentation d'une sortie de l'Union européenne. Un peu plus d'un mois avant le référendum sur le Brexit, Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international, déclare que la sortie porterait un coup à la croissance. Alors que ce soir à Bruxelles, la commissaire européenne au commerce réaffirme son souhait de voir aboutir sous l'administration Obama la négociation avec les États-Unis sur le traité de libre-échange TTIP, aussi appelé TAFTA, à condition que soient respectées les lignes rouges et les priorités des Européens. Ils sont des dizaines de milliers en Afrique du Sud, des mineurs atteints de silicose, cette maladie des poumons contractée dans l'enfer des mines d'or. La justice autorise aujourd'hui les victimes à mener des actions de groupe. Une première victoire donc, le récit de ce combat juridique avec notre correspondante à Johannesburg, Lisa Fabian.
Ce sont 56 mineurs malades qui ont saisi la justice sud-africaine pour lancer une action collective contre plusieurs compagnies minières accusées d'avoir mis leur santé en danger. Le tribunal leur a donné raison, estimant que les plaignants n'avaient pas les moyens de porter plainte individuellement et qu'une action de groupe était la seule option réaliste. 17 000 à 500 000 personnes sont susceptibles de participer à cette action collective historique qui vise une trentaine de sociétés minières, notamment les géants AngloGold Ashanti et anglo-américaine. Ces hommes et ces femmes ont contracté la silicose en travaillant sans protection et dans des conditions très dures au fond des mines d'or sud-africaines. Certains des mineurs malades sont à la retraite aujourd'hui, d'autres sont morts, mais leurs familles pourront rejoindre la procédure. L'espoir est immense puisqu'au mois de mars, d'anciens mineurs atteints de silicose ont obtenu la création d'un fonds de dédommagement de 30 millions de dollars dans une autre affaire. Une résolution à l'amiable déjà saluée comme une victoire historique historique pour les droits de l'homme et des travailleurs. Avec ce nouveau procès, les mineurs d'or espèrent que leur détresse sera entendue et que les compagnies minières protégeront mieux leurs ouvriers à l'avenir.
Lisa Fabian, le montant des dédommagements pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars. Visite express de François Hollande en Centrafrique cet après-midi. Le chef de l'État vient évoquer notamment la reconstruction du pays et la fin de l'engagement militaire français sur place. Une présence de quelques heures seulement avant de se rendre au Nigeria. Dans la capitale Abuja, il sera le seul président non africain à participer demain à un sommet régional sur la sécurité consacré à la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram. La Belgique annonce aujourd'hui que ses avions de combat pourront participer désormais à des frappes aériennes en Syrie contre le groupe État islamique. Au Brésil, Michel Temer veut prendre des mesures d'urgence économique. Le président par intérim, entré en fonction hier, réunit son gouvernement aujourd'hui, au lendemain de la suspension de la présidente Dilma Rousseff. Nadine Epstein, bonsoir.
Bonsoir.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un gouvernement très resserré.
Gouvernement resserré d'un tiers, 23 ou 24 ministres, et donc par exemple, le ministère de la Culture à part entière a été supprimé et a fusionné avec le ministère de l'Éducation, dirigé maintenant par Mendoza Filho. Une dizaine d'artistes ont aussitôt réagi, critiqué la disparition du ministère de la Culture dans une lettre ouverte au président par intérim Michel Temer, dont le signataire Gilberto Gil. L'un des premiers ministres à s'être exprimé, celui des sports, qui a promis un succès absolu pour les JO de Rio cet été. Il y a quelques minutes, vous l'avez dit, c'est le ministre des Finances qui a pris la parole pour annoncer la réduction des dépenses publiques et le maintien des programmes sociaux. Le défi d'Enrique Meirelles, c'est de sortir le Brésil de la pire récession depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'ex-président de la Banque Centrale avait réussi sous la présidence de Lula entre 2003 et 2010 à contenir l'inflation et à redresser l'économie brésilienne. Mais aujourd'hui, le nouveau ministre devrait s'attaquer à la réforme du système des retraites avec peut-être la fixation d'un âge minimum pour partir à la retraite, selon un expert. Autre nomination, l'économiste José Serra, ex-gouverneur de Sao Paulo. Il devient ministre des Affaires étrangères. Tout de suite, les internautes se sont moqués d'une phrase qu'il avait prononcée il y a quelques années quand il avait appelé le Brésil les États-Unis du Brésil, ou encore quand il avait qualifié le Mercosur, ce marché commun entre six pays latinos, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela et Bolivie, de délire mégalomane. Donc, même à peine formé, ce gouvernement est déjà à la cible des critiques. Vous l'avez dit, il n'y a plus aucune femme et aucune personne de couleur. Ce cabinet intérimaire est pour l'instant en place pour 6 mois.
Merci Nadine Epstein. En France, l'argent sale au cœur du procès pour tentative de meurtre qui a lieu en ce moment aux assises d'Evry. Younes Bounouara, proche de l'ancien maire de Corbeil-Essonne, Serge Dassault, est jugé pour une tentative d'assassinat sur fond de soupçon d'achat de votes lors d'élections municipales. Les précisions de Sarah Guibaudot.
Depuis 2 jours, on a presque perdu de vue la fusillade de février 2013 quand Younes Bounouara, qui est allé chercher une arme, tire sur Fatahou. À la demande de la défense, on assiste à un défilé de témoins qui viennent décrire l'accusé comme un vrai gentil et la victime comme un voyou menaçant. Son casier judiciaire est pourtant beaucoup moins chargé. Les débats ont en tout cas permis de se faire une idée du climat de violence qui régnait dans la ville en 2013 sur fond de convoitise pour l'argent versé par Serge Dassault à quelques-uns. Le maire et ses collaborateurs étaient harcelés à chaque déplacement. On ne publiait plus notre agenda, explique l'un. Un ancien élu était particulièrement menacé. Sa fille a été victime d'une agression atroce. Il faut dire que Jacques Le Bigre était surnommé le porteur de valises et il en veut beaucoup à la presse de l'avoir écrit. Mais les témoignages sont parfois caricaturaux. Le président et l'avocat général le soulignent car la victime décrite comme un caïd paraît bien seule aujourd'hui. Alors que du côté de l'accusé, l'ancien grand frère qui a aidé la mairie à pacifier le quartier des Tarterets, les soutiens sont nombreux sur les bancs de la cour d'assises.
Anne Lauvergeon, dans le bureau du juge d'instruction ce matin, l'ancienne patronne d'Areva a été entendue en vue d'une possible mise en examen. Interrogée dans une enquête sur le rachat de la société minière canadienne Uramine qui a tourné au fiasco financier, c'était en 2007. L'enquête des juges porte notamment sur des soupçons de diffusion d'informations fausses, d'abus de pouvoir et de faux et usage de faux. C'est le quatrième jour du procès fleuve des deux bourgmestres rwandais jugés aux assises de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité. Les faits remontent à avril 1994. Les deux hommes sont accusés d'avoir participé au massacre de Tutsi. Ils ont toujours nié les faits qui leur sont reprochés. Et aujourd'hui, Catherine Dutu, la famille du plus vieil accusé, Tito Baraya, a été appelée à la barre.
Son ex-femme, une aide-soignante de 58 ans, cheveux courts, foulard orange autour du cou, alors qu'elle est invitée à prendre la parole aussi longtemps qu'elle le souhaite pour parler de son ex-mari, Jeanne Mouret-Katété déclare lapidaire « C'était un bon mari, un bon père de famille ». S'ensuit alors une série de questions pour tenter d'éclairer la personnalité de l'accusé, Tito Baraya, à la tête, entre 76 et 86, de Kabarondo, une commune rurale située à l'est du Rwanda. Comment était-il perçu ? Interroge encore la cour. Il était très respecté. A-t-il eu d'autres fonctions politiques ? Non. Mais vous ne saviez pas qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés en avril 94, il avait été élu responsable du parti au pouvoir, le MRND. Je ne suis pas sûre, on ne parlait pas de politique à la maison. Tito Baraya, 64 ans aujourd'hui, cheveux grisonnants, reste impassible, comme depuis le début de ce procès, où il encourt la perpétuité, soupçonné d'avoir incité des Hutus à tuer des Tutsis. Des témoins l'accusent aussi d'avoir directement participé au massacre de centaines de personnes réfugiées dans l'église de Kabarondo le 13 avril 1994. Savez-vous combien sont morts ce jour-là ? Demande Maître Paruel, avocat de l'une des parties civiles. Non, répond Jeanne Mouret-Katété. Décidément, vous ne savez pas grand-chose, ironise Maître Paruel. Et à l'avocat général qui lui demande si 22 ans après, elle veut connaître la vérité, celle qui a divorcé en 2007 de l'accusé Tito Baraya, car ils avaient vécu séparés en exil, son ex-femme donc réfléchit quelques instants et finit par lâcher « Je préfère ne pas savoir ».
Merci Catherine Dutu pour toutes ces précisions. Quand la retraite se transforme en cauchemar, la CIPAV, la Caisse de Retraite Complémentaire des Professions Libérales, met à rude épreuve ses adhérents. C'est au départ une caisse d'architectes, puis depuis une trentaine d'années, elle accueille maintenant 300 professions libérales et bientôt des milliers d'auto-entrepreneurs. Pour obtenir le versement de sa retraite, il faut s'accrocher. Anne Lorchouin, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Alors vous avez enquêté sur cette caisse de retraite qui semble marcher sur la tête.
Oui, elle mène la vie dure à ses adhérents. Près d'Orléans par exemple, un retraité invalide à 80% attend depuis plus d'un an qu'on lui verse sa retraite. Son dossier est parfaitement en règle, mais rien, personne ne lui répond jamais, il attend. À Bordeaux, on demande entre autres à un adhérent de régler 9000 euros d'arriérés qu'il a déjà payés à un huissier de justice. Et il y a pire, Nicolas Mathieu est instituteur, donc pas du tout profession libérale et donc pas affilié à la CIPAV.
Un jour, j'ai reçu une lettre de la CIPAV, donc un organisme que je ne connaissais pas, qui me demandait la somme de 200 000 euros. Deux semaines plus tard, j'ai reçu un recommandé de la part de leurs avocats. Donc là, j'ai vraiment compris que ce n'était pas une erreur ni une blague. Ce qui fait peur, c'est que vous n'avez affaire entre guillemets à personne. Et puis comme c'est un organisme d'État, on se dit, bon, bah, la prochaine étape, ça sera le salaire, retrait de salaire, ça sera la saisie. Et puis miraculeusement, j'ai reçu une lettre simple en disant que mon dossier était clôturé.
Alors ça a bien fini pour Nicolas, mais ce n'est pas le cas pour tous les autres.
À tel point, Sophie, que trois associations de victimes ont vu le jour. SOS CIPAV adhérent est l'une d'entre elles. À sa tête, Geneviève de Crop, qui voit passer des cotisants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive.
C'est des gens qui tournent en rond, en se cognant la tête contre les murs. Ils reçoivent un courrier, on leur dit « vous devez tant ». Et puis un courrier après, la somme a changé. Ils ne savent plus à quel sens jouer. La manière dont effectivement la CIPAV ne répond pas, envoie l'huissier avec des lettres de menace hors toute procédure autorisée. Les gens se mettent, et puis on comprend, ils dorment pas, on a des gens qui se mettent sous neuroleptique, qui prennent des somnifères. Ils sont livrés à un arbitraire. C'est Kafka, en fait.
Qu'est-ce qui explique cette gestion kafkaïenne, Anne-Laure ?
Alors, beaucoup de choses, mais notamment un système informatique défaillant, qu'on peut qualifier sans exagérer d'accident industriel. Il a été passé commande de ce système sans appel d'offres, en toute illégalité donc, un système informatique qui aura finalement coûté 50 millions d'euros à la CIPAV, au lieu des 2,5 millions initialement prévus, sans compter qu'il ne fonctionne toujours pas et qu'il génère par exemple des courriers automatiques ubuesques. Écoutez l'avocat Maître Dimitri Pinsent qui conseille les victimes de la CIPAV et qui décrit quelques-uns de ses courriers.
On a des courriers qui sont absolument pas renseignés, c'est-à-dire on a l'identification du destinataire, une formule de politesse et c'est tout. Une personne qui n'arrivait pas à faire liquider ses droits, il a reçu trois courriers de deux pages successifs contenant uniquement des croix et des blancs. Il y a bien quelqu'un qui l'a mis sous une enveloppe, il y a bien quelqu'un à la CIPAV qui a envoyé le courrier à la personne concernée. Ben voilà, ça s'est passé comme ça, sans aucun contrôle, sans aucun garde-fou, et ça continue parce que ça, c'est des courriers qui sont très récents.
Bref, avalanche de dysfonctionnements, tout cela a-t-il été dénoncé?
Eh bien, pendant des années, non. Et puis en 2014, la Cour des comptes y met son nez, elle rédige un rapport au vitriol et transmet même le dossier au parquet, résultat deux condamnations de deux directeurs pour délit de favoritisme. Le nouveau directeur, lui, est issu des rangs de la Sécurité sociale, et même s'il était chargé avant cela de contrôler justement la gestion de ces caisses de retraite, il reconnaît que sa tâche est immense.
Moi, quand je suis arrivé au service courrier, vous aviez dans des sacs 30 000 lettres qui n'étaient pas ouvertes. Donc la première chose qu'on a faite, c'est 15 jours après mon arrivée, j'ai demandé à 100 salariés qui étaient volontaires, le samedi, d'ouvrir ces lettres. Nous avons également ouvert deux nouvelles plateformes téléphoniques. Nous avons encore des axes d'amélioration.
Des axes d'amélioration, c'est un euphémisme.
Oui, la situation est tellement dégradée qu'on se demande si la CIPAV va un jour régler ses problèmes. Selon la défenseure des droits en charge de la protection sociale, qui reçoit d'ailleurs toujours autant de plaintes des affiliés de la CIPAV, ça va prendre du temps, beaucoup de temps.
Les difficultés vont perdurer pendant plusieurs années parce qu'on a notamment de grosses problématiques qui sont liées à des absences de recouvrement de cotisations. Et les personnes concernées vont s'en rendre compte au moment de la liquidation de leur pension. Donc ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans. Le passif est tel qu'il faudra plusieurs années pour redresser l'organisme.
La CIPAV ou la Cour des comptes est revenue 2 ans seulement après son premier rapport. Elle y enquête en ce moment même.
Merci Anne Lerchouin. Une enquête à retrouver sur franceculture.fr. À réécouter aussi en longueur dans Secret d'Info ce soir à 19h20 sur France Inter. Colère des ONG de défense de l'environnement ce soir. Le Sénat a rejeté en deuxième lecture notamment l'interdiction totale des pesticides néonicotiniques contenus dans le projet de loi biodiversité. Denis Voisin de la Fondation Nicolas Hulot dénonce un texte vidé de sa substance.
Rappelons-nous que les députés avaient voté une interdiction totale dès 2018 des produits qui contenaient des pesticides néonicotinoïdes, ces pesticides qui ont des effets très dangereux sur la santé et sur l'environnement, on pense notamment aux abeilles. Les sénateurs, eux, ont choisi de rejeter à une large majorité tout principe d'interdiction totale de ces pesticides et proposent en lieu et place de mettre en place en quelque sorte une usine à gaz en confiant une étude au cas par cas, usage par usage, à l'ANSES, donc une agence qui va évaluer les effets sur la santé de ces produits et qui décidera, oui ou non, de les interdire progressivement. C'est quelque chose auquel on ne croit pas, nous, à la Fondation Nicolas Hulot, et on appelle maintenant les députés et les sénateurs qui vont se réunir dans le cadre de commissions mixtes paritaires à ne pas transiger sur ce principe d'une interdiction totale le plus rapidement possible, dès 2018, et à ne pas transformer ce projet de loi biodiversité en un naufrage.
Propos recueillis par Véronique Rebérotte. On part maintenant à Cannes, deuxième jour du festival. Antoine Guillot, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Alors aujourd'hui, deux nouveaux films en compétition, Maloute de Bruno Dumont et Moi, Daniel Blake de Ken Loach, deux films qui ne nous ont pas convaincus, Antoine.
Journée assez décevante en effet pour ce qui est de la compétition. Ken Loach dénonce avec Moi, Daniel Blake, la façon indigne et kafkaïenne dont l'administration implacable du système social britannique traite les précaires et les démunis tout en les culpabilisant. Mais cette descente aux enfers d'un vertueux charpentier cardiaque est trop didactique, univoque et platement filmée pour vraiment toucher. Beaucoup plus d'audace chez Bruno Dumont, deuxième cinéaste français en compétition, avec ce très loufoque Maloute, une farce grotesque autour de la confrontation sur la côte d'Opale de l'été 1910 de deux familles, des bourgeois lillois dégénérés par abus de consanguinité et des pêcheurs de moules aux mœurs étranges. On dira juste qu'ils ont une dent contre ces riches précurseurs de la villégiature littorale. Rajoutez à cela des inspecteurs à la Laurel et Hardy en costume de Dupont et Dupont et vous aurez une petite idée de cette comédie policière et fantastique sur la lutte des classes. Bruno Dumont persiste dans sa nouvelle veine burlesque après le succès de l'excellent Petit Quinquin. L'image est toujours aussi belle, le couple de jeunes amoureux désassortis est touché par la grâce, mais le film s'enlise assez vite dans les dunes de la baie de la Slack quand la farce tourne à la charge et que les gags tombent à plat. Question de rythme, sans doute. On se sera donc aujourd'hui rabattu sur L'économie du couple, l'excellent film du belge Joachim Lafosse à la quinzaine des réalisateurs. Lutte des classes, là encore, mais dans le couple, tant les questions d'argent cristallisent les conflits. Quand on ne s'aime plus, autrefois on restait ensemble pour des raisons morales, aujourd'hui on le fait pour des raisons financières. Cela dit quelque chose sur notre époque.
Merci Antoine Guillot. Le monde du cinéma endeuillé ce soir, on apprend la mort de l'ancien directeur général de la société de production EuropaCorp, Christophe Lambert. Ex-dirigeant du groupe du cinéaste Luc Besson, il a succombé à un cancer, il avait 51 ans. Le temps, un ciel voilé le matin sur la moitié nord, quelques averses sur la moitié sud, à l'exception du pourtour méditerranéen. Température fraîche demain matin, 8 à 16 degrés du nord au sud, jusqu'à 21 degrés l'après-midi.